Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la sublimation. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Marionnettes, quelquefois, elles ont envie de couper le fil qui nous relie, qui les relie à leur maître. Mais malheureusement, c'est lui qui décide de nos mouvements. Toujours à la dernière minute, à chaque fois que l'on doit faire le geste pour nous libérer, une main nous retient. Jules lui dit, comme vous ce soir, Marc lui dit, pourtant, je ne suis pas le mentor de marionnettes. Il m'arrive que je dois aider, bien malgré moi. On entend le crépitement du feu. La chaleur et l'alcool fait du bien à Jules. Marc lui dit. Ce qui serait bien, c'est trouver la clé pour pouvoir entrer dans un autre monde, une autre vie. Jules lui dit. Mais pour cela, on peut le faire sans artifice. Il suffit de dire je pars. Marc lui dit. Vous croyez, essayez, l'on vous tient par le fil et vous pouvez aller que si l'on veut. Vous voulez encore boire? Oui, merci. Et Marc le serre. Et il lui dit, peut-être que si on inversissait les rôles, sans changer de roman, il nous laisserait faire, ou bien vous enviendriez moi, et j'aurais vos peines, et vous ma vie. Qu'en pensez-vous? Je lui réponds, ce serait peut-être bon, mais j'aimerais avant, c'est de savoir qui vous êtes. Marc lui dit, c'est simple, je ne fais rien, je suis contre tout, surtout contre le travail. J'ai 26 ans, plus vierge depuis longtemps. J'aime tout de même la musique et la neige. Je me nourris très peu. Je fréquente, quand j'en ai envie, de compagnie, des anarchistes. J'ai plus rien à vous dire, je crois. Je lui dis, c'est pas tout à fait dans mes goûts. Et j'habiterai cette maison? Oui. Par contre, cela me va. Marc lui demande, alors, nous échangeons nos vies? Mais réfléchissez pas trop longtemps, parce que l'auteur va bientôt nous séparer pour vous faire passer dans une autre scène et moi dans la malle aux accessoires où se trouvent les figurants, les seconds rôles et les décors aussi. Jules en riant lui demande, vous êtes un second rôle? Même pas, un petit rôle. L'auteur a peur de me donner des rôles plus importants. Il se dit que je risquerais d'y mettre la pagaille dans son histoire. Je suis un personnage catalogué perturbateur, anarchiste. Jules rit et demande « Comment allons-nous faire pour échanger nos personnages ?»«
Vous êtes donc d'accord ?»«
Oui, ça me reposerait de mon rôle qui est un peu lourd. » Marc cherche et dit
« Je crois que j'ai trouvé. » Nous allons bien nous regarder dans les yeux et nous dire en nous-mêmes ce que nous sommes.
« D'accord. » Ils se mettent bien en face l'un de l'autre et se fixe des yeux. Je
Jules prend le jeu au sérieux et se décrit intérieurement. Au bout de quelques minutes, Marc demande
« C'est fait ?»«
Oui,
moi aussi. »
Jules lui demande
« Alors, qu'est-ce que l'on fait ?»
Marc lui dit « C'est toi qui dois le savoir, puisque c'est toi. » Et que c'est toi qui a expliqué ce qu'il fallait faire. Je lui dis,
le transfert me semble pas vraiment être fait. En tout cas de mon côté.
Marc lui dit, il faut sûrement dormir. Et dans la nuit, lorsque l'auteur dormira lui aussi, car le transfert ne peut se faire que lorsqu'il dort. Je lui dis, eh bien dormons. Marc lui dit,
oui, allons-nous coucher.
Il se lève. Venez, je vais vous montrer votre chambre. Il se lève et suit Marc.
Ils sortent du salon. Et prennent l'escalier de pierre pour aller au premier étage. Marc, où le Jules en marque, etc., ouvre la porte. Voici votre chambre, petit monsieur. Il entre dans la chambre.
Petite chambre Lucain, ce que je ne veux pas vous décrire, car c'est juste pour une nuit.
Cela vous plaît-il ?
Oui, c'est charmant.
Vous trouverez dans la commode une chemise de nuit. Elle est à moi, mais propre. Et puis, vous serez bientôt moi.
Il sourit. Je lui dis,
merci. Bien, je vois que vous allez mieux. Vous serez allé passer une bonne nuit. Un peu de fantaisie et tout repart.
Je lui dis, merci, c'est vous qui devriez écrire.
Mais c'est ce que je ferai jusqu'à ce que je serai vous. Bon, je vais tout de même vous laisser dormir.
Je lui demande, mais cette chambre,
c'est la chambre d'amis qui n'a jamais servi parce que je n'ai pas de connaissance.
Je lui dis, je suis sûr que beaucoup de gens seraient heureux de vous avoir comme ami.
Marc lui dit, oui, mais malheureusement l'auteur en a décidé autrement. Et il est dur, même pas de petit ami.
Je lui demande, comment faites-vous?
Je me mets entre deux pages pour faire ce que vous savez dans l'intimité.
Ils rient tous deux. Et Marc sort de la chambre.
Jules s'étire, puis se déshabille. Va à la commode. Prendre la chemise de nuit, se la met et se couche.
Le lit est bon, les draps neufs et un peu raides, mais au bout d'un moment, il n'y fait plus attention.
Jules s'endort rapidement. La fatigue et le choc de la nuit l'y aident. Un sommeil noir sans rêve, c'est sûrement mieux pour lui. Lorsqu'il se réveille, il se sent bien. Au début, il se demande où il se trouve et se souvient de ce bizarre jeune homme et de son pari bizarre. Il lui semble, d'après ce qu'il ressent, que ça n'a pas marché, car il se sent bien lui-même. S'étire dans son lit et se demande s'il doit se lever. Il a l'air de bien faire jour. Regarde sa montre qu'il a mise sur la table de nuit. 10h30. Décide de se lever et attendre que l'on vienne le chercher. Se lève. Comme il ne sait pas où se trouve la salle d'eau, il s'habille et attend. Lorsque la montre marque 11 heures, on a frappé à la porte. Entrez. Entre, Marc.
Bonjour. Vous avez bien dormi ?
Oui, je vous remercie.
Alors, la bonne heure. Venez prendre votre petit déjeuner.
Jules suit Marc, qui le mène à la cuisine qui est au rez-de-chaussée. C'est une grande pièce, la cuisine, et fait un peu campagne, avec sa grande table en chêne massif. Le petit déjeuner est déjà servi. Asseyez-vous.
Jules va s'asseoir à table. Marc se met en face de lui.
Je n'ai pas de domestique. J'aime mieux. Comme ça, je suis plus libre. Café, chocolat, lait.
Café, merci. Marc fait le service. Et il mange.
Alors, ce transfert.
Je lui dis. Je ne sais pas. Je crois que je suis moi. Marc lui dit.
Vous vous rendrez compte petit à petit.
Je lui demande. Et vous ?
Moi, je suis presque vous.
Comment ?
Je sens que je suis amoureux et que la personne ne m'aime pas. J'ai envie d'écrire une histoire d'amour. Et j'aime le café au lait.
Jules sourit.
Marc lui dit, vous sentez parfaitement bien ?
Oui, je crois.
Alors c'est que le transfert se fait.
Après le petit déjeuner, Jules lui dit, je dois vous quitter maintenant, ma famille va s'inquiéter.
Bien. Comme vous voudrez. Mais soyez sage,
je vous le promets. Et puis je suis vous maintenant.
Marc leur accompagne jusqu'au portail.
Jules lui tend la main.
Merci pour tout. Ce n'est rien. C'est vous qui m'avez sauvé la vie, sans vous en rendre compte. Car moi aussi, j'étais venu comme vous, vers l'eau. C'est vous qui m'en avez empêché. Le destin a voulu me sauver en vous sauvant.
Je l'ai surpris et lui, il lui demande
« Et pourquoi ?»
Marc lui dit
« Oh, pour une histoire de solitude, de « À quoi bon ?» Vous savez la vie.
Merci.
Je lui dis « Nous sommes sauvés la vie. Sans vous, je ne serai plus. Sans moi, vous ne serez plus là. »
Soyons amis.
Marc lui dit, je vous remercie, cela me touche, mais c'est impossible, puisque je suis vous et vous moi. Et puis, je ne suis pas un être très recommandable. Vous risquerez d'avoir des ennuis. Et l'auteur a fini mon passage avec nous deux. Votre histoire va se poursuivre.
Jules est ému.
Marc lui tend la main qu'il serre.
Allez, temps, il est temps que vous partiez.
Je le regarde autour de lui et lui dis,
je ne sais pas où je suis et comment je vais faire pour rentrer chez moi.
Marc lui dit, vous voyez, le transfert se fait. Vous êtes devenu moi, c'est normal que vous ne savez pas où vous habitez.
Marc lui dit,
prenez à droite. C'est le long en suivant la Saône. C'est assez loin, mais vous suivez la Saône.
Et c'est ce que fait Jules. Après une heure de marche, il entre chez ses parents, épuisé. Sans se montrer, il monte jusqu'à sa chambre, se coucher un moment. Il se dit, quelle drôle d'histoire cela. Ça me donne une idée nouvelle, fantastique. Lorsqu'il se réveille, la chambre est dans la pénombre. Il fait déjà nuit. Regarde sa montre, il a dormi toute l'après-midi.
Il se lève, défroisse ses vêtements, sort de la chambre. Il va rejoindre sa famille au salon qui doit attendre l'heure du dîner. Oui, ils sont tous là. Sa mère brode, sa sœur lit, son frère écrit, son père fume devant la cheminée. Il s'approche d'eux.
Sa mère lui demande : Où étais-tu passé ? J'ai marché un peu. J'ai tout fait au milieu de cette foule.
Tu as marché durant tout ce temps.
Oui, mais j'ai rencontré une personne et nous avons passé la nuit ensemble. La mère tout saute.
J'espère que ce n'est pas une de ces créatures que tu as fait attention.
Constant dit à sa femme.
Charlotte, c'est un homme maintenant, il faut bien qu'il...
Oh, Constant, je t'en prie. Tant qu'il est chez nous, il doit se conduire correctement.
Jules agacé lui dit. C'était pas avec une femme, et nous avons passé la soirée à discuter.
Il va s'asseoir à côté de sa sœur.
Qui lui dit, tu me raconteras ? Il lui répond, je ferai mieux, je vais l'écrire. Il m'est arrivé une rencontre étrange, un peu comme dans les histoires fantastiques. Après le dîner, Jules va passer la soirée dans sa chambre pour commencer à penser à ce qu'il va écrire.
Une fois qu'il est dans sa chambre, il se met à son bureau.
Prend des feuilles de papier. Il se dit, il faut que je transforme cette histoire. Il faut que mon héros soit amoureux, non de son ami, mais de sa cousine. Il l'aime depuis toujours et elle aussi l'aime. Mais elle l'aime d'une façon fraternelle. Malgré que tout le monde aime beaucoup le jeune homme qui est orphelin, issu d'une famille ruinée et qui a été élevé par les parents de sa cousine, c'est un garçon sérieux, intelligent, travailleur, d'un beau physique. Les parents de la cousine l'ont toujours bien aimé et aidé, mais que, comme si c'était leur fils. Mais le jour où leur fille doit se marier, ils leur ont choisi un bon parti. La mort dans l'âme, il a vu que la jeune fille acceptait ce parti, sans penser à lui. Il se dit, pourtant elle savait que je l'aimais. Après avoir dit son amour et supplié à la jeune fille de ne pas se marier, elle l'a rejeté et lui a dit qu'on ne se mariait pas avec une personne que l'on connaissait depuis l'enfance. Il s'est enfui, la mort dans l'âme, couru dans les rues, sans savoir où il allait. Puis arrivé au bord d'un fleuve, il décide de se jeter. Juste au moment où il va faire le geste, un homme l'en empêche. Il lui dit, il y a mieux à faire que de se donner la mort. Il l'invite chez lui, lui propose un pacte qui lui paraît ridicule et le fait bien rire. Vous devenez moi et moi je deviens vous. Le jeune homme accepte en riant, puis ils vont se coucher. Le lendemain matin, le jeune homme ne trouve plus l'homme et s'apprête à quitter la maison. Il se voit dans la glace près de l'entrée. Il est devenu l'autre. Il croit rêver, devenir fou. Puis, d'épuisement, il doit admettre que c'est bien vrai. Au fur et à mesure que le temps passe, il oublie petit à petit son moi pour prendre celui de l'autre. Il devient l'autre physiquement et en pensée, à oublier ce qu'il était. Pendant ce temps, l'autre a pris sa place. Il vit chez les parents de la cousine de l'autre. Au début, il les observe d'une façon maligne et connaît l'histoire avec la cousine. Alors, tant qu'il n'est pas l'âme de l'autre et qu'il n'est pas amoureux de la belle, pour se venger, il la courtise, lui donne des baisers dans le cou, la fait rire. Elle a fait se moquer de son fiancé. Petit à petit, la cousine est conquise. Et une nuit, il a même l'audace d'aller jusqu'à sa chambre et d'y faire ce que l'on doit faire avec une jeune fille. La jeune fille est complètement conquise, plus vierge. Elle dit à ses parents qu'elle ne veut plus se marier. Les parents lui disent impossible. Elle décide de fuir avec son cousin. Lui, qui est l'autre, prend l'âme du vrai cousin, qui est moins téméraire, puisque vraiment amoureux. Ça le rend aux yeux de la jeune fille encore plus beau. Elle l'aime plus. Elle organise le départ et ils s'en vont une nuit. Une nuit d'orage terrible. On dirait que le déluge recommence. Ils sont partis en fiacre que le cousin a été chercher. Il a donné l'ordre au cocher de les mener en Italie. Malgré la pluie, les éclairs, le tonnerre qui effraie les chevaux, les routes ruisselantes sont pleines de boue. Les rivières, les fleuves qui débordent, les deux amants, blottis l'un contre l'autre, sous une couverture, n'ose pas regarder dehors. Après des heures infernales, le cocher arrête son fiacre en pleine route de montagne. Là, sous la pluie, qui est devenue petit à petit de la neige, il ouvre la portière. Le cousin demande « Que se passe-t-il » Le cocher montre son pistolet. « Descendez !» Le couple descend. Le cocher leur dit « Videz vos poches et mettez tout dans ce sac. » Il s'exécute. Puis le cocher avait pris le sac. Il tire sur la fille qui tombe à terre et s'apprête à tirer sur le cousin. Mais le coup de feu a fait peur aux chevaux qui, avec le tonnerre, étaient déjà sur les nerfs et s'apprêtent à s'emballer. Le cocher d'instinct lance l'arme pour tenir les chevaux. Le cousin prend l'arme et lui tire dessus. Le cocher tombe à terre. Les chevaux s'emballent, foncent sur le cousin et l'écrasent. une mort sur le coup. Le cocher, gravement blessé, reprend ses esprits. Malheureusement, la blessure a fait disparaître l'enchantement. Il est redevenu le cousin. Et sa conscience lui dit qu'il vient de tuer sa bien-aimée. Il se maudit et mort.
Jules vient d'écrire ce résumé en moins d'une heure. Il en est satisfait et décide de commencer à l'écrire dès le lendemain.
Mais une chose me chagrine, c'est la fameuse phrase « Vous m'avez sauvé la vie, nous sommes sauvés la vie ».
Mutuellement, ce que je vais faire, je vais écrire deux versions, celle-là et l'autre plus vraie. Tout ce que j'ai vécu dans la nuit, les mêmes dialogues, sauf le début. Là, le jeune homme voudra mourir parce qu'il est ruiné. Et à la fin, il va rencontrer sa jeune cousine qu'il aimera. Mais le dialogue et tout ce que j'ai vécu avec Marc resteront tels quels. Il est satisfait. Il a deux longues nouvelles à écrire.
Malheureusement, au cours de la nuit, son corps se serre. Il voit le beau visage de Sylvain. Il sait maintenant qu'il est Jules et que Marc n'a pas pris sa place.
Le lendemain, dans l'après-midi, sa sœur va le voir dans sa chambre.
Entrez.
Je peux rester un moment avec toi? Il lui dit. Tu ne vois plus Charles-André?
Non.
Et puis il est très pris. Elle hausse les épaules et lui dit « J'aime mieux être avec toi. »
Elle va chercher une chaise pour s'asseoir près de lui.
Elle lui demande « Qu'est-ce que tu fais ?» J'écris une nouvelle. « C'est ce qui t'est arrivé la nuit dernière ?»
Oui, et en fait, j'en fais deux. Mais l'une ni l'autre ne sera vraiment la vérité.
Alors quelle est la vérité?
Elle n'a aucune importance. Maintenant, ce qui compte, c'est ce que j'ai ressenti après. Et ça, l'on y trouve dans les nouvelles. C'est essentiel. Qu'importe les faits et gestes, ce qui compte, c'est la sensation.
Ce qui veut dire qu'en gardant la même idée, on peut écrire plusieurs histoires différentes.
C'est ce que je fais. Le sujet reste le même. Mais les faits, non.
Elle lui dit, tu as revécu une histoire qui devient deux différentes.
Il lui dit, attention, avec le même thème sujet, mais en lisant les histoires, tu ne te rendras compte de rien, ou presque.
Elle lui dit, un écrivain peut écrire toute sa vie le même sujet, mais d'une façon différente alors.
Il lui dit, c'est ce qui arrive d'une façon plus ou moins inconsciente à beaucoup d'entre eux.
C'est ce que les critiques disent, que l'écrivain n'est pas mineur parce qu'ils ont un univers, son écriture.
Mais je trouve que ça ne veut pas dire grand-chose.
Ça ne veut pas dire que ce soit un bon écrivain. C'est simplement une personne qui a un ou deux thèmes qui le hantent.
Et puis un bon écrivain n'est pas obligé d'avoir un univers à lui.
Il peut changer de style à chaque nouveau roman. Suivant le sujet.
Pour moi, un bon écrivain, c'est celui qui sait choisir le style qu'il faut au roman qu'il écrit, et ceci pour que le lecteur puisse rentrer dans l'histoire facilement.
faire de belles phrases sans que l'on voit qu'elles sont belles, faire parler les gens d'une façon réaliste. Un paysan du Moyen-Âge, qui sait ni lire ni écrire, connaît à peine 500 mots, ne peut pas parler en vers ou un français parfait. Même si cela est beau à lire, ça paraît ridicule. Malheureusement, c'est ce que font beaucoup d'auteurs. Ils s'appliquent au beau langage sans se soucier de réalité, mais pour montrer qu'ils savent bien écrire. C'est irréel dans le roman, mais au théâtre, c'est ridicule.
Elle bâille et lui dit « Oui, tu as sûrement raison. »
Elle se dit qu'elle n'a pas de chance avec ses deux frères. Ils sont vraiment pas drôles.
Puis Jules voit en pensée le visage de Sylvain. Son cœur se serre. Il demande à sa sœur « Et tu ne m'as pas raconté la soirée ? Comment elle s'est continuée ?»
Elle soupire et lui dit « Ouf, une soirée comme les autres. Tu as bien fait de partir. » Il est surpris, il lui demande « Mais tu étais avec un charmant jeune homme ?» Elle ouvre les épaules, balance ses jambes d'avant en arrière. « Pouf, tu veux dire ce jeune ? Comment s'appelle-t-il déjà ?»
Il dit qu'elle se moque de lui. « Sylvain Dupin. » Elle fait « Ah oui, un peu coulant. Il a été constamment près de moi, ce qui fait que je n'ai pas pu faire de connaissance. »
Je crois qu'il a un petit béguin pour moi.
Je lui demande, et toi ? Elle lui dit, moi ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce gamin ?
Mais il a presque ton âge.
Elle hausse les épaules, lui dit, et alors je suis une femme, moi ?
Mais lui, c'est un homme.
Oh, si peu !
Je le soupire et lui dit, tu es dur, je te signale qu'il est formé tout de même.
Il se dit tout de suite qu'il a fait une bêtise.
Elle lui dit, ne cherche pas à aller voir si c'est vrai.
Lui répond, tu as raison. Oui, tu trouveras sûrement mieux, un meilleur parti.
Elle est triste que son frère veuille la marier, mais se dit qu'il le faut bien, parce qu'on n'est plus du temps des pharaons où un frère ou une sœur pouvait se marier.
Il lui demande, et toi, que comptes-tu faire ?
Je dois trouver un mari très riche pour me libérer.
Parce que tu crois que tu seras libre une fois marié ?
Je peux choisir un vieux, très riche. Plus c'est vieux, plus ça aime la petite fille.
Et je crois que je ferai une belle veuve, tu ne trouves pas ?
Oui, le noir t'ira à ravir. J'espère c'est que lorsque tu seras marié, tu viendras me voir.
Oui, bien sûr, je viendrai ici, il lui dit. Je compte que d'ici là, j'aurai trouver un logement convenable parce que j'ai envie de vivre seul, avoir une chambre à moi, aller venir comme je le voudrais, recevoir des amis, écrire sans être dérangé.
Elle sourit et lui dit, ne pas être dérangé avec plein d'amis.
Il lui dit, ne te moque pas, j'écrirai lorsque je serai seul la nuit.
Elle lui dit, l'on voit que tu ne connais pas la bohème, car tu seras que les amis viennent, surtout la nuit, pour faire la fête.
Il hausse ses épaules et lui dit, « Eh bien, j'écrirai le jour. »
Elle se lève et lui dit, « Je te quitte, je dois te laisser écrire. C'est la journée. » Elle l'embrasse sur la joue.
Elle lui dit encore, « Tu me feras lire tout ça ?
Oui, je te le promets, si tu me laisses écrire.
Bien, je te quitte. »
Jules est heureux, elle n'aime pas Sylvain. Elle ne cherche pas à le lui prendre, son Sylvain est encore à lui. Il se dit qu'heureusement que les filles sont bêtes, qu'elles ne savent pas qui est ce qui est beau. Elles préfèrent les hommes faits, les imbéciles. C'est en bouton qu'ils sont les plus beaux, les plus tendres. Mais lui, est-ce qu'il aimera encore Sylvain ? Lorsqu'il sera un homme, lorsqu'il va grossir, s'élargir, avoir une voix plus forte, des gestes plus durs, des poils, lorsque son visage va devenir adulte, ne va-t-il pas prendre du ventre, des rides, avoir un gros derrière, des cuisses molles, des yeux qui risquent d'être cachés par un visage bouffi ? des cheveux en moins qui blanchiront? Pourra-t-il l'aimer comme ça? On dit bien que l'amour est aveugle, mais jusqu'à quel point? Peut-être que l'amour, pour une femme, ce n'est pas la même chose, qu'il va au-delà des apparences, mais un homme pour un gamin, ou plutôt un jeune homme. La différence est tellement grande entre un jeune homme et un homme fait. Jules a mal en pensant à ça. Il se dit que non, que l'amour qu'il a pour Sylvain va au-delà de tout ça. Il l'aime vraiment. Mais s'il avait connu Sylvain, s'il l'avait connu plus âgé, est-ce que plus tard ce sera toujours Sylvain qu'il aime? Est-ce que lui aussi ne va pas changer et peut-être va-t-il évoluer, ce qui lui permettra d'aimer toujours Sylvain? À moins que les préférences, les goûts n'évoluent pas forcément avec l'âge. Comme dit sa sœur, il y a beaucoup des personnes âgées qui préfèrent les jeunes. C'est un peu normal, un jeune visage, un beau corps, c'est plus beau. Voilà qu'en pense Jules, est tellement troublé qu'il ne peut plus écrire. Mon amour pour lui doit être éternel ou rien. Toutes ses pensées lui font honte, il a envie de le voir. Il se lève, sort de la pièce et décide d'aller sonner chez lui. Il est décidé de le faire. C'est la première fois qu'il ira chez lui. Oui, la première fois. Jules, le corps gros et plein d'amour, il va d'un bon pas vers Sylvain. Oui, il a vraiment envie de le voir. Il veut oublier ses tristes pensées. Ils sont jeunes tous les deux, toute la vie devant eux. Alors pourquoi penser à la vieillesse? Pourquoi? Il arrive à sa rue. Entre dans son allée. Il monte. Il est entré sans hésiter. Mais je ne sais pas ce qu'il va lui dire. Mais qu'importe. Il arrive enfin à la porte de l'appartement. Là, il a une hésitation. C'est normal, c'est la première fois qu'il va sonner chez lui. Il ne sait quoi lui dire. Et s'il y a sa mère qui ne connaît pas? Il sonne. La porte est ouverte. C'est une vieille domestique, petite et maigre. Jules, en la voyant, se sent rassuré. C'est vraiment une domestique. Cela fait partie de son monde.
Monsieur Désir,
je suis venu voir Monsieur Sylvain Dupin.
Monsieur Dupin est absent.
Ah, Jules n'avait pas pensé à cela. Mais une voix demande,
qui est-ce? Un monsieur qui désire voir Monsieur Bibi.
Viens. Une femme, grande, mince, blonde, le visage agréable, mais sévère, est habillée d'une robe noire.
Elle demande, « Monsieur,
je suis simplement venu voir Monsieur Sylvain Dupin, mais puisqu'il est absent, je vais me retirer, madame. »
« Mon fils ne va pas tarder. Rentrez. »
Il entre, gêné. La bonne ferme la porte. On le conduit le long d'un couloir. Au fond d'un couloir, à gauche, on ouvre une porte. Entrez. Il entre. La dame entre aussi. La domestique ferme la porte.
C'est un salon petit bourgeois avec plein de franfoluches, plantes vertes et petits bibelots. Tout cela cache des meubles du XVIIIe. Asseyez-vous. Elle lui montre un fauteuil près de la cheminée où se trouve un bon feu.
Et elle s'assoit à côté de lui sur un autre fauteuil.
Elle lui demande « Vous aviez quelque chose à dire à mon fils ?»« Rien de spécial, je suis venu comme ça pour parler avec lui. » Elle lui dit « Vous êtes le fils de Charlotte Beaumandin, n'est-ce pas ?»« Vous lui ressemblez un peu. » »«
Oui, madame. » La mère sourit et lui dit
« Votre mère et moi étions très amis, mais la vie nous a séparés. Chacune s'est mariée. Mais... je la remercie, c'est de recevoir mon petit Sylvain, qui n'a guère fréquenté le monde. C'est un gentil garçon. »
Jules a le corps gros, qu'on lui parle si bien de son Sylvain. Elle lui demande
« Il paraît que vous écrivez des livres. Mon fils m'en dit le plus grand bien. Votre mère m'en a offert un, mais je ne peux le lire à cause de mes yeux. »
« Oui, madame, j'écris des nouvelles, mais de peu d'importance. »
Je vais faire servir le thé. Vous en voulez, sûrement.
Merci. Elle sonne.
On a frappé à la porte. Entrez.
C'est la bonne. Apportez-nous le thé, s'il vous plaît.
La bonne demande. Est-ce que j'amène une tasse aussi pour Bibi? Oui, il va pas tarder.
Et la bonne se retire. La mère sourit.
Oui, nous l'appelons Sylvain Bibi parce que lorsqu'il était petit, il était si mignon. Un véritable petit bijou. J'en étais folle. Et je l'ai eu très jeune. Je passais mes journées à jouer avec lui. Elle sourit. Il lui dit « Maintenant, il est aussi très beau !»
Il a dit cela avec une telle fougue qu'elle le regarde, surprise et gênée.
« Oui, bien sûr !»
Elle se demande s'il n'aurait pas, disons, spécial. Elle ne connaît pas le mot, mais sait que ça existe un peu.
Elle lui dit « Vous êtes venu demander quelque chose à mon fils ?»
Entrez. Est entrée la bonne avec le plateau de thé qu'elle a posé sur la table basse, en face d'eux. Juste devant la cheminée. Elle s'apprête à servir le thé.
Non, laissez, je vais servir, merci.
Ah bon ?
Elle soupire et dit, Bibi n'est pas encore rentré.
La mère lui dit,
vous pouvez vous retirer. Merci, Jean.
Ah bon ? Et elle se retire. La mère lui dit,
elle continue à traiter mon fils comme un enfant. Mon mari est mort très tôt et je me suis retrouvée seule avec cet enfant et jeune. Cela sous les liens, même entre les classes, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr.
Thé avec sucre, citron, lait, une goutte de lait.
Merci. Et elle fait le service.
Belle, parce qu'elle lui ressemble. Elle a sur tous ses yeux. Cela le trouble et la regarde un peu trop. Elle s'en aperçoit et se dit qu'il doit la trouver belle. Elle sourit et se dit qu'à son âge, séduire même malgré soi, un si jeune homme. Voir que ses mains sont aussi délicates que celles de son fils. Il a tellement envie de les embrasser. Elle se demande,
qu'ont mes mains qu'il fixe tant. Moi qui croyais qu'il était attiré par mon fils.
Elle voit qu'il a un maintien parfait. L'on a frappé.
Entrez.
Madame, Bibi vient d'entrer. Il est monté à sa chambre. Bien jeune, merci. Et la bonne a fermé la porte.
Il faut toujours qu'elle me renseigne sur les moindres faits et gestes de mon fils.
Malgré elle, peut-être à cause que cela fait très longtemps qu'on ne lui a pas fait la cour et attirée par ce jeune homme, elle se dit qu'il a des lèvres admirables. Elle a une envie folle d'être embrassée par ses lèvres. Oui, elle veut être prise dans les bras. Cela fait si longtemps qu'elle n'a pas été prise par un homme. La nuit, de plus en plus souvent, elle se réveille avec ce désir. Bien sûr, elle en a honte, mais que faire ? Jules est surpris par cette femme qui le regarde avec tant d'insistance, surtout qu'elle ressemble tant à Sylvain. Il se demande pourquoi elle le regarde tant. Puis, se souvient qu'elle lui avait dit qu'elle avait des difficultés à voir pour lire. On a frappé à la porte.
Entrez.
Et Sylvain, avec le sourire, beau comme un dieu, qu'il est beau. Il n'est pas surpris de voir Jules parce que Jean lui avait dit qu'il avait une visite. Lui, Jules, se sent gêné. Jules se lève, embarrassé, tout petit. Sylvain va vers eux. Sylvain lui dit, bonjour. Quelle surprise de te voir. Je lui dis, oui, j'avais envie de te voir. Tu as bien fait. Sylvain lui tend la main, puis embrasse sa mère.
Bonjour, mère. Bonjour, mon fils. Tu prends ton thé?
Oui, merci. Et va s'asseoir sur un pouf à côté d'eux. Sa mère le serre. Il dit,
Lyon est sale, c'est incroyable. Je déteste cette ville.
Sa mère lui demande, et dans quelle ville aimerais-tu vivre?
Je ne sais pas, moi. Paris, Rome, Venise, Vérone, Londres. Enfin, dans des villes, il y a quelque chose qui ne soit pas que des lieux où dormir et travailler comme ici.
La mère surprise lui dit, mais
c'est un peu cher pour nous, mon petit, ces villes-là.
Il manque de faire tomber un bout de brioche. Jules le rattrape de justesse avant qu'il ne tombe sur le tapis. Et d'un geste enlève sur la veste de Sylvain les miettes qu'il a fait. Sylvain n'a pas bronché. Comme si c'était naturel que Jules s'occupe de lui d'une façon, disons, intime. La mère a vu la chose, elle a tiqué. Et se dit que peut-être que leur intimité, enfin quoi, cela l'a rendue doublement jalouse. Que l'on fasse des choses si intimes à son fils, et en même temps que Jules ne lui préfère à elle. Elle soupire et se dit que décidément l'âme des garçons est impénétrable. Elle voit que depuis son fils est arrivé, il ne le regarde plus. Elle soupire. Son fils lui demande :
Vous n'allez pas, mère, vous êtes souffrante ?
Non, non, ça peut aller.
Elle se lève et leur dit :
Bien, je vous laisse.
Non, mère, vous pouvez rester au salon. Jules et moi allons dans ma chambre.
Elle le regarde avec de grands yeux.
Dans ta chambre ?
Oui. Elle s'imagine sans oser le voir ce qui risque de se passer. Panique, elle leur dit :
Non, non, vous pouvez rester ici. C'est moi qui vais dans ma chambre.
Comme vous voudrez, mère. Et la mère dit à Jules :
Au revoir, monsieur. Vous direz mes amitiés à votre mère.
J'y manquerai pas, madame. Surpris, il a vu au fond de ses yeux une certaine hostilité. Ne comprend pas.
Et la mère quitte le salon.
En quittant la pièce, la mère a pensé à la scène du gâteau. Sylvain soupire et se détend.
Ne fais pas attention, je suis fils unique et le seul homme de la maison. Tu as vu comment on me surnomme ?
Je lui dis : C'est gentil ?
Oui, c'est gentil.
Tu es venu pour quoi ?
Pour quelque chose ?
Jules rougit.
Il sait pas quoi dire.
Dire quoi ?
Qu'il est venu ?
Pour chasser ses mauvaises pensées ? La peur de le voir vieillir ?
Maintenant, près de lui, il n'a plus peur. Il sait que Sylvain restera toujours jeune.
Je suis venu comme ça. Parce que tout simplement, j'avais envie de compagnie. Ça ne te gêne pas ?
Non, pas du tout. J'en suis très flatté.
Sylvain est heureux. Le frère d'Apolline qui recherche son amitié et en plus est écrivain.
Il lui demande :
Ta soeur n'a rien dit au sujet de la soirée, la façon stupide dont je me suis comporté ?
Non,
Sylvain lui dit : J'ai été idiot et crampon. Je lui ai raté sa soirée.
Mais que veux-tu ? Quand on aime, on fait n'importe quoi.
J'ai bien vu. C'est qu'elle était agacée que je ne lui paie pas.
Mais pas du tout. J'ai l'impression qu'elle me prend pour un gamin.
Quelle honte !
Je suis si bête ?
Je lui prends la main qui lui semble si douce.
Mais non. Mais non. Tu es très bien.
Mais tu sais, les filles sont bizarres. On n'arrive pas à les comprendre.
La preuve, la plus belle fille du monde peut tomber amoureuse d'un Quasimodo.
Qui sait, ma sœur est peut-être stupide,
beau comme tu es.
Moi, si j'étais à sa place,
Sylvain lui dit : Je te remercie, cela est très gentil de me dire tout ça. Mais si tu étais à sa place, moi je ne serais pas à la mienne.
Radio Canet vous a présenté dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la sublimation, dont c'était la 29e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.
La CVRP, Cinéma Vidéo Radio Production, vous a présenté une cassette OB.
Canu.
La radio utile.